Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour auditeurs, auditrices de Radio Diwa, vous êtes dans la rubrique interview aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines que vous nous retrouvez, Pierre, Jeanne et moi-même, derrière les micros de Air Diwa pour plusieurs cycles d'émissions qui sont partis du coup de Pierre Rabhi. On est passé aussi, du coup on a parlé des oasis, on a parlé du féminin au cœur du changement et aujourd'hui on clôture un petit peu tous ces sujets que vous pouvez retrouver donc dans la rubrique interview sur notre site internet www.rdwa.fr. Et aujourd'hui donc l'héritage de Pierre Rabhi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Jeanne.
Un petit mot peut-être Pierre sur cet héritage, sur Pierre Rabhi lui-même et sur ses petites émissions.
Alors l'héritage de Pierre Rabhi, quand on l'a connu, comme j'ai eu l'occasion de le connaître, le côtoyer il y a quelques années, on a une dimension du bonhomme qui est, par son humilité, comme son nom l'indique, l'humilité très simple, mais on n'imagine pas du tout ce que ce petit bonhomme, sandale bretelle, comme on l'appelle, ses éternelles sandales et ses sempiternelles bretelles, a laissé, nous a laissé, et le parcours, son parcours, qui est un parcours en fait, on pourrait résumer en un mot, la cohérence. À ma connaissance, on l'a déjà dit dans les autres émissions, Pierre Rabhi représente pour moi et pour pas mal de gens, celui qui a incarné l'écologie. Mmh. Et on pourrait même aller plus loin, l'humanisme, au-delà même de l'écologie, puisque lui dépassait l'écologie en se posant comme d'abord comme un humaniste.
L'idée
donc l'association Terre et Humanisme qu'il a créée, il tenait absolument à ce que le mot humanisme soit cité dans Terre et Humanisme.
Cette association, son siège, elle est toujours d'actualité malgré qu'il a disparu.
Oui. Ouais. Oui, oui, on va le voir sur le sur okay. sa trajectoire.
Très bien.
Elle est toujours là, elle s'est toujours développée avec une équipe formidable que j'ai pu côtoyer, des gens vraiment impliqués. Sans qui Pierre n'aurait pas fait grand-chose, il faut leur reconnaître ça. Et Pierre d'ailleurs le reconnaît lui-même, il l'a reconnu, hein, que sans une équipe il n'était rien. Il avait une phrase que j'ai reconnue au premier stage que j'ai fait, première formation que j'ai fait en agroécologie avec lui, c'était en 2000, où il avait déjà une certaine popularité et il disait « Je veux bien être la source, mais nous serons la rivière ». Donc ça veut déjà tout dire, hein, c'est la source, c'est le point
l'importance
de départ.
L'importance du faire ensemble,
c'est
du collectif
ça.
Aussi.
Ouais. Et ce qui compte, la vie est dans la rivière. La source, c'est la petite chose qui sort, les quelques gouttes qui sortent et après, la rivière. Donc je vais tracer assez rapidement sa biographie en la jalonnant de ce qu'il a réalisé, de ce qu'il a incarné en fait. Hein. C'est un mot auquel il tenait beaucoup et auquel je tiens aussi moi beaucoup en tant que prof de tai chi. L'incarnation, incarner, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc Pierre est né le 29 mai 38 dans l'oasis de Kenatsa, dans le sud algérien, c'est le désert. On ne va pas s'attarder sur son enfance, simplement dire qu'il arrive à Paris en 59, donc il avait 21 ans, il était majeur, il arrive à sa majorité à Paris, c'est la guerre d'Algérie. Et il trouve un emploi d'ouvrier donc. Première approche de la vie professionnelle, pratique, le bas de l'échelle. Et ça, pour lui, c'est important. Et il trouve très vite, il se sent tout de suite très mal à l'aise avec ce statut d'ouvrier. Et il se rend compte que le statut d'aliénation que vivent les ouvriers, ça lui convient, il ne tiendrait pas longtemps. Donc il s'est penché, il a entamé une réflexion. Sur la condition humaine dans la société, et particulièrement celle des classes, des basses classes.
Quand tu dis qu'il a entamé une réflexion, est-ce que dès son plus jeune âge, du coup, dès ses premières expériences, il a commencé à écrire ou à, en tout cas, laisser une empreinte de ses premières réflexions ?
Il a vraiment commencé à partir du moment où il a été dans le bain des réalités sociales, et des réalités sociales de base, hein, des couches populaires, c'est vraiment là où il s'est dit mais comment est-ce possible que l'humanité puisse vivre dans ces conditions avec une prise en compte de ce qu'on produit, plus importantes que ceux qui les produisent. Donc ça l'a vraiment choqué. Il est assez autodidacte. Il était très curieux et plutôt autodidacte. Donc en fait, globalement, c'est un homme qui n'a eu aucune formation officielle et qui s'est formé en autodidacte de lui-même.
À l'école de la vie. Voilà.
Donc, au bout de 2 ans, il craque. C'était en banlieue parisienne, hein, dans une entreprise, une grosse entreprise où il était ouvrier.
Très bien de tenir 2 ans à Paris. Ouais. Moi, je ne suis pas sûre que j'y arriverai.
Ouais, c'était en banlieue. Il rencontre sa future épouse, Michel, qui était comptable dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Et il décide de partir, de quitter, au bout de 2 ans, de quitter la ville, le milieu urbain. Et ils arrivent en Ardèche, où il apprend le métier d'agriculteur. Pierre apprend le métier d'agriculteur, il se dit, moi la terre, c'est vraiment mon truc. Il a grandi dans une oasis. Il est né et il a passé ses premières années dans une oasis. Donc. Le couple, en 63, achète une ferme à Montchamp. Montchamp, c'est tout près de la Blachère, vers les Vences. C'est l'Ardèche-Sévenolles. Dans un lieu magnifique, hein, le lieu, moi j'y suis passé à chaque fois que j'étais en formation, le bois de paille-olive, c'est un bois, c'est un conte de fées, c'est presque, on y...
Ouais, je crois que c'est là où on est allé quand on allait en Ardèche, dans la roulotte. On est allé à cet endroit-là.
Ah, oui. Bois de paille-olive.
Oui, oui. Ouais, c'est okay. Ouais, je crois qu'on l'a fait, on s'est baladé dans ces bois-là.
Ouais, mais c'est un lieu vraiment magique, oui, on a l'impression de voir.
Mais oui, on avait vu justement comme des runes avec les pierres et tout.
Oui,
okay. On pourrait voir des petits elfes se balader là-bas, ça ne nous étonnerait pas. Quoi. Ça irait bien avec le décor.
Ah oui, c'est la première sensation que j'ai eue, de voir des petits gnomes sortir derrière des troncs, des elfes. Donc là, ils arrivent en 61, je disais. 63, donc, Montchamp. La ferme, tout est à refaire. Une terre pauvre. Les paysans du coin qui les voient s'installer tournent l'index sur la tempe pour dire ils ne vont pas durer longtemps, ils sont fous. Dans un lieu sans électricité pendant 7 ans et sans l'eau du réseau pendant 13 ans. Donc, il faut déjà voir sur une terre rocailleuse. Enfin, tout pour plaire à un fou de nature, un fou de vie, un type qui vraiment se lance dans une gageure, mais c'est son intime conviction, c'est vraiment très profond. Et Michel aussi, sa femme aussi. Il ne faut pas enlever Michel du lot parce qu'elle a une place très très importante. Et souvent, la catalogue, j'ai entendu les propos assez pas très 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 sympas sur elle, comme quoi c'était bobonne au foyer. Ils ont eu 5 enfants et en fait, en gros, c'était la femme au foyer. Et Michel a dit, si c'était à refaire, je le referais. Donc,
Il y a plein de femmes qui privilégient leur choix de maman. Et je trouve ça carrément OK si tu as la possibilité de le faire et que ça te va. Il y a des femmes qui souhaitent être indépendantes malgré leur statut de maman et de femme. Mais je comprends tout à fait que tu préfères mettre tout ton temps dans l'éducation de tes enfants et être à la maison avec tes enfants.
Oui.
Voilà, le truc, c'est de pouvoir choisir. Du temps que tu choisis ce que tu fais, libre à toi de faire ce que tu veux. En fait, c'est
puisqu'on parle beaucoup de consentement, elle a vraiment consenti à cet engagement, à cette gageure. Ils étaient très complices. C'était assez beau de les voir ensemble. Il y avait une très, très belle complicité entre eux. Donc, 63, on arrive en 75. La famille de 5 enfants a constitué un troupeau de chèvres. Elle a planté des vergers, un potager, et elle accueille de nombreux stagiaires, à l'époque 75, post-68, qui pensent au retour à la terre, ou, comme disait Pierre Rabhi, au recours à la terre. Et les résultats qu'ils ont obtenus, Pierre-Michel et sa famille, ont suscité localement beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à eux parce qu'ils ont vraiment relevé. Je tenais à le préciser dans sa biographie parce que moi, je serais tenté de dire que Pierre Rabhi, en fait, c'est d'abord et avant tout ça, même, on verra tout l'héritage qu'il nous a laissé, mais c'est cet engagement au quotidien avec cette cohérence entre les convictions et les actes. Et le milieu écologiste a toujours eu un gros souci avec ça,
oui.
Il a encore plus, hein, puisqu'on a des très, très brillants intellectuels dans le milieu de l'été, sauf qu'on se demande où est-ce qu'ils incarnent, quoi. Et l'écologie, c'est d'abord et avant tout ça.
C'est l'action, quoi.
D'autant plus que si on définit l'écologie, on sait que c'est des interactions, des influences à l'intérieur d'un milieu, donc un bain permanent d'engagement qui se coordonnent. Et là, moi, je suis un peu atterré de voir comment vire le milieu écologiste, où on a de très, très brillants intellectuels, mais qui ne sont que des intellectuels qui travaillent sur des concepts, qui travaillent... Bon, voilà, c'est une parenthèse, mais c'est simplement pour montrer que l'engagement de cet homme, quand j'ai pu entendre des critiques dans les années 2000 avec l'arrivée des nouvelles technologies, où j'entendais dire « mais Pierre Rabhi, c'est une autre époque, c'est la vieille école ». En gros, j'ai entendu beaucoup d'écologistes, alors je tiens à préciser, des mecs. J'ai jamais entendu, ça m'a sauté il n'y a pas longtemps. Ça m'est apparu comme ça, tiens, j'ai jamais entendu une femme ou une nana dire une critique négative sur Pierre Rabhi. Donc moi, ce côté montrer Pierre Rabhi comme ringard, je serais juste tenté de dire aux écologistes, essayez simplement de ce petit bonhomme qui faisait 1m55, de lui arriver à la cheville dans vos réalisations, et on pourra parler de ringardise après. Là, pour moi, cet héritage, je serais tenté de dire que l'hommage principal que je lui rends à travers ses émissions à Pierre Rabhi, c'est sur l'héritage qu'il nous laisse, sur sa biographie, déjà, qui a toujours été en cohérence. Il y a eu 2 ans dans sa vie où il était ouvrier, où il a pété les plombs, et il s'est engagé en partant de rien, mais de rien, d'un tas de cailloux et de ruines, de murs, pour arriver là où il est. Donc moi, je demande minimum de respect. Moi, c'est total respect vis-à-vis de Pierre Rabhi, mais je demande aux gens en face de moi, et surtout aux écologistes, minimum de respect, ne serait-ce que pour ce qu'il nous laisse.
Est-ce que l'idée aussi à travers ces émissions, c'est que chaque personne qui nous écoute, écologiste ou non, puisse s'approprier justement aussi en fait l'essence même des idées de Pierre Rabhi, de faire, enfin, il faudrait qu'on retourne justement aussi à la base, de se rendre compte qu'on fait qu'un avec la nature et qu'il faut être avec elle. Du coup, est-ce qu'il y a aussi cette dimension de sensibilisation et d'éveil à travers ces émissions ?
Oui, moi, c'est un peu mon objectif. Hein. C'est pas une réhabilitation. Moi, qui suis-je pour réhabiliter Pierre Rabhi ? C'est simplement un homme que j'ai côtoyé. J'ai suivi les formations. On a passé des moments ensemble. J'ai fait une émission de radio avec lui. On est parti un week-end en Belgique ensemble. Lui, il faisait le compost. Moi, je faisais le Qigong. Remettre les pieds à la terre. Et cet homme m'a laissé quelque chose de vraiment touchant, de chaleureux, de profondément humain. Et rien que d'entendre des critiques, il n'était pas parfait, ça c'est clair. Hein. C'était un être humain. Et en tant qu'être humain, il avait ses défauts, ses faiblesses, ses fragilités. Mais qu'on remette en question et qu'on critique l'œuvre, ça, pour moi, ça ne passe pas. Par des gens qui, en face, n'ont rien à proposer d'équivalent, en plus. Je veux dire, ils font des bouquins, ils font des conférences, ils travaillent sur des concepts, très bien. Mais ce que je vois aujourd'hui, voir l'écologie virer dans un monde hors sol, uniquement cérébral, intellectuel, ça m'inquiète, en fait. Des projets comme la vie de Pierre Rabhi, comme ce qu'il a laissé, j'en vois pas. Donc, j'entends des gens parler sur des statuts qu'il faut laisser à des rivières, par exemple. Que des rivières aient un statut juridique au niveau écologique. Et... Oui, belle idée. Mais ces personnes reconnaissent que ça va prendre des années. Oui, mais attendez les urgences. Oh, on se réveille, là. Vous voyez les urgences ?
C'est vrai qu'il y a beaucoup, on va dire, l'État, les gouvernements qui jouent aussi sur la non-mise en action. Enfin, là, enfin, on a évoqué les polluants éternels dans une émission. Et donc, il y a certaines lois et tout qui sont passées au Sénat là, pour se défaire de ça. Mais ils vont tout appliquer ça en 2030, en fait. Pourquoi vous attendez encore 2030 sur tout ce qui est écologique ? En fait, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas qu'il n'y a pas d'idée, mais c'est qu'il y a zéro mise en action. On écrit des bouquins, on parle de l'écologie, on fait des conférences là-dessus, mais il n'y a rien qui se passe derrière.
Incarné. Ouais. Je veux dire, on peut pas avoir accès aux médias, comme certains écologistes ont, et rester que dans le discours. C'est aujourd'hui, quand on voit les réalités, mais c'est juste pas possible. Je me demande sur quelle planète ils vivent parfois. Toi. Donc voilà, Georgette Palapierre, il y en a que je connais personnellement, sont des gens chouettes. J'ai pas de procès d'intention ni de critique à la personne à faire. Hein, c'est des gens que j'apprécie, que j'aime bien. C'est simplement une espèce de chose qui s'est mise en place, là, cette cérébralité à tout crin, où on n'existe qu'à travers des idées, des concepts et autres. Mais regardez la réalité, quoi. Et le souci de Pierre Rabhi, ça a toujours été de prendre la réalité en compte. Qu'est-ce qu'on fait avec ces réalités ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Qu'est-ce qu'on incarne ?
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
On revient à sa biographie et sur ce qu'il laisse sur son parcours. En 1980, Pierre intègre le cercle de relations internationales entre agriculteurs pour le développement, ça s'appelle le CRIAD. Et l'année qui suit, sur la foulée, il part en mission en Haute-Volta, qui devient le Burkina Faso, avec l'arrivée de Thomas Sankara, où il sera bientôt chargé de former des jeunes agriculteurs. Alors, au Burkina Faso, à Gorom-Gorom, l'endroit où Pierre Rabhi a investi un lieu, qui était un lieu aussi d'hébergement, un lieu d'accueil, il a formé, mais là on ne les compte plus, c'est par milliers les paysans burkinabés qui ont été formés par ces centres que Pierre a installés, avec d'autres personnes qui sont des personnes qui comptent. C'est assez hallucinant de voir cette énergie de, justement d'incarner, d'incarnation, de concrétiser des idées qui étaient l'essentiel pour lui. Je veux dire, une idée, elle est belle, mais si elle ne reste qu'une idée, elle est pauvre. Et là, en 83, il publie son premier livre qui s'appelle « Du Sahara aux Cévennes ». Le premier sous-titre, c'était « La reconquête du songe ». Il a été réédité aux éditions Candide, avec le sous-titre « Un itinéraire d'un homme au service de la terre-mère ». Alors, le premier sous-titre, « La reconquête du songe », quand Pierre Rabhi parlait du songe, on avait des yeux d'enfant, on l'écoutait, on était comme un Merlin l'Enchanteur qui racontait. Pour lui, le songe, quand je dis le songe aujourd'hui, les gens me regardent, c'est quoi le songe ? Tu planes, tu rêves, t'es sur ta planète. Le songe, pour Pierre Rabhi, c'était un moment particulier où il décrochait, il se posait un peu, et il laissait venir ce qui lui passait par la tête, en regardant le paysage, en regardant le contexte. Et au bout d'un moment, il me l'a dit, ça, il était complètement intégré dans le paysage, là où il était, dans le milieu où il était. Et il n'y avait plus d'idées, il arrivait presque au vide mental et être simplement bien. Et pour lui, le songe, c'était ça. Donc, c'est une manière de récupérer. D'ailleurs, on le travaille aussi dans les disciplines.
C'est un peu une sorte d'état méditatif. Oui, du coup, ça. En fait, on laisse passer tout c'est ce ça. Qui vient sans s'attarder vraiment c'est sur ça. Des pensées.
On laisse passer.
Et on ressent aussi beaucoup ce qui se passe.
Et le fait de laisser passer, de rien arrêter, de ne pas capter, de ne pas gamberger sur ce qui te passe par la tête, fait que petit à petit, tu t'intègres, même corporellement, dans le lieu où t'es, et t'as une sensation qui est assez... On travaille ça aussi en tai chi, dans les méditations.
C'est un ancrage aussi, on s'ancre par rapport à ça, en faisant ça, on se pose vraiment... Enfin, notre cerveau, du coup, il est plus, comme tu disais, en train de penser à 3 milliards de choses, et du coup, ça permet vraiment de se recentrer.
Oui. On travaille ça, je disais, en vide mental, en méditation tai chi, on travaille ça sur le vide mental, où on fait le vide, pour ressentir concrètement, très physiquement, le contexte et s'intégrer vraiment dedans. C'est une sensation très, très chouette. Donc là, on est en 83 avec la sortie du Sahara aux Cévennes. En 84, il forme avec Maurice Freund. Maurice Freund, c'était un de ses amis. Donc ce centre de formation agroécologique de Gorom-Gorom, dont je vous parlais tout à l'heure, qui reçoit les paysans burkinabés, mais aussi un type d'accueil qui est une forme de tourisme assez sympa dans le sens où les gens viennent voir des réalisations concrètes de ce qui se fait dans le pays. Alors que d'habitude, le circuit touristique, c'est pour voir ce qu'il y a de plus beau dans le pays, mais pas s'immerger, pas s'intégrer dans le peuple, dans les paysans. Donc il y avait cette initiative-là. En 88, là on passe de 84 à 88, le Conseil général de l'Hérault crée le Carrefour international d'échange des pratiques appliquées au développement. C'est un peu long. Ça s'appelle le CIEPAD. Et là, pareil, Pierre Rabhi s'implique à fond. Le but, c'est de valoriser les ressources locales, de former les agriculteurs et de mettre en œuvre des programmes internationaux pour développer l'agroécologie. Et à ce moment-là, il sort un superbe bouquin que j'aime beaucoup, qui s'appelle « L'offrande au crépuscule », qui parle de cette expérience-là. Donc, le CIEPAD, ça a été un moment clé dans les réalisations et dans la vie de Pierre Rabhi, où là, il s'est vraiment engagé dans un rapport nord-sud, qui pour lui était capital, c'était fondamental, cette relation nord-sud. Il a pris conscience très vite que le monde riche, 20% des habitants de la Terre, s'octroyait 80% des ressources et des biens, et 80% des hommes et des femmes qui restaient avec les 20%. Et là, il s'est dit, le rapport nord-sud, il est capital. Et en 94, se forme la création de l'association des Amis de Pierre Rabhi, qui deviendra Terre Humanisme en 1999, qui elle aussi s'efforce de développer les pratiques en agroécologie en France comme à l'étranger. Donc, quand on prend rien que ça, l'itinéraire de Pierre Rabhi de 1963 à 94 et qu'on voit ce qu'il laisse, là, on se dit, bah, prenons-en la graine dans le milieu de l'écologie. La graine étant le mot qui convient. L'association Terre et Humanisme en 94 qui devient Terre et Humanisme, elle est aujourd'hui devenue pleinement celle des amis, elle a récupéré celle des amis et tous les gens qui se considèrent comme passeurs de l'agroécologie. Donc elle œuvre à la transmission d'un ensemble de pratiques agricoles qui est sous-tendu par cette pensée humaniste que Pierre Rabhi avait, autonomie alimentaire des populations, sauvegarde des patrimoines nourriciers. Dans la sauvegarde des patrimoines nourriciers, il y a les semences. Tout ça dans toujours cette éthique du respect de l'homme et de la nature. En 1996, création, on en a parlé dans la première émission, du concept des oasis en tout lieu et du manifeste qui va avec, le manifeste éponyme. Donc l'idée directrice, c'était, comme on en a parlé lors de cette émission, pouvoir choisir ses voisins, là où on habite, quel que soit le lieu, même en ville à la limite, mais plutôt en milieu rural, et partager des activités avec eux, mutualiser des outils, des machines, et des échanges de compétences, donc recréer ce qu'on appelle aujourd'hui le lien social, mais qui là est vraiment une implication de ce que peut être réellement le lien social. Donc l'idée, moi, ce concept, il me tient vraiment beaucoup à cœur, l'oasis en tout lieu, parce que pour moi, c'est une issue pour demain. Ainsi, on parle beaucoup d'effondrement, de collapse, de catastrophe, de ceci, de cela. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour préparer le collapse? Pas grand-chose. Je ne vois rien, très concrètement, pour préparer le collapse.
C'est l'histoire de l'humanité qui dit ça un peu, mais je me demande si aussi l'espèce humaine n'a pas besoin de... justement d'un effondrement ou de drame pour être capable juste, c'est dommage d'en arriver là et d'attendre, voilà, mais pour repenser et se dire justement, comme on parle de surproduction, des surconsommations, le fait de, si on vivait en communauté et qu'on mutualisait et nos compétences et nos outils, etc., il y aurait déjà, enfin, on n'aurait pas tous des voitures, des vélos, des scies, des trucs, enfin là toutes nos maisons sont remplies de plein de choses qu'on pourrait partager ensemble plutôt. Et j'ai un peu l'impression que l'être humain, avant de se rebooster dans une nouvelle direction, il a besoin d'arriver au pied du mur, quoi. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que voilà, il faut que ça rupte pour que l'humain soit enclin à se remettre en question, à changer et à voir comment demain on peut faire autrement, quoi.
Moi, le seul problème pour moi et ce qui m'engage, c'est qu'on a des enfants. Donc attendre le collapse avec des gamins, c'est juste pas possible, en fait. Moi, ça me fout hors de moi. C'est juste pas possible. Quand on sait et qu'on a la prétention de vivre dans un pays dit libre, même si c'est une caricature de démocratie, mais on a quand même des ouvertures au niveau des réalisations à entreprendre, qui en plus vont vers la sobriété heureuse, la simplicité volontaire, c'est-à-dire pas le toujours plus, de gagner toujours plus, mais de réduire. Où sont les obstacles? Je me pose la question, où sont les obstacles?
Mais sur la non-conscientisation. Il y a trop de gens qui ne conscientisent pas les choses comme nous, on le fait autour du micro. Non-conscientisation,
mais aussi il y a un pli qui est pris, il y a un certain confort qu'on a intégré et sur lequel on a un mal incroyable. Enfin, moi, je ne parle pas pour moi, là, mais je dis nous parce que je suis solidaire. Mais le mal incroyable qu'on a, alors qu'en fait, je me suis rendu compte, moi, j'ai vécu 3 ans seul dans une campagne paumée en Picardie, après un an et demi de service militaire, dans un camp disciplinaire où j'ai morflé grave, et j'ai eu besoin de 3 ans pour m'en remettre, où j'ai vécu seul dans une maison en ruine que mes parents avaient achetée, ils n'avaient plus les moyens de la retaper. Et là, j'étais dans une sobriété petit à petit qui devenait heureuse, une simplicité qui était involontaire, que je n'ai pas décidé. Et là, je me suis rendu compte de ce qu'on pouvait vivre avec un minimum de biens matériels, tout ce que ça ouvrait sur autre chose, la sensibilité, le ressenti, le senti, la perception de notre contexte, du milieu, de la nature. Mais c'est juste hallucinant. Et moi, les écologistes me fatiguent, mais sérieusement, pour ne pas dire plus, avec cette incapacité, c'est toujours être dans le discours, mais où est-ce que vous êtes crédible si vous ne réalisez pas, en fait? Comment vous pouvez sans arrêt développer les belles idées, mais perdre toute crédibilité parce que vous n'êtes pas dans l'action, dans le faire et dans l'incarnation? Donc moi, j'ai un gros problème. Je ne me dis pas écologiste à cause de ça, même si pour moi, l'écologie, c'est réducteur. Pour moi, on ne peut pas être qu'écologiste, en fait. ce que Pierre Rabhi disait, être humanisme, c'est englober tous les problèmes écologiques
et sociétal,
conditions de la femme, conditions de la femme, ce qu'on pique, ce qu'on pille dans le tiers-monde, tout ce qu'on gaspille, les peuples qu'on laisse sur le carreau, tout ça c'est un ensemble, on ne peut pas être qu'écologiste. L'humanité dont on a parlé dans la première émission, qui a abouti à l'humanisme, pour moi c'est fondamental. Écologistes, en plus, quand je vois qu'ils sont incapables de concrétiser et d'incarner, c'est encore plus réducteur. Mais pour moi, être écologiste, c'est vraiment l'écologie, pour moi, c'est réducteur. Donc, après, chacun fait ce qu'il peut et là où il en est, bien sûr. Mais comment peut-on faire être dans le discours sans jamais, jamais avoir ce réflexe, enfin, cette envie, la simple envie de pratiquer. Si j'ai une belle idée, ma première envie, c'est de la pratiquer, c'est de la mettre en pratique. C'est pas de... Vous avez vu les mecs ? Sympa l'idée, hein ? Vous mettez combien sur 10 sur cette idée, hein ? Non, on va la faire. Après, chacun est foutu comme il est foutu. Nous étions en 94, donc, avec la création de Terre Humanisme, les amis de Pierre Rabhi qui deviennent Terre Humanisme en 99. On arrivait donc à l'Oasis Sortulieu, donc ce concept... ou entre voisins, ça peut aller très loin comme concept en plus, l'oasis en tout lieu, ça peut être carrément ce qu'on appelle un écolieu, un écohabitat, un hameau simplement, choisi par des gens qui ont des connivences, qui ont des complicités entre eux, et voilà, simplement après, il y a cette histoire où on revient à Pierre Rabhi, qui lui avait une profonde humilité, c'était quelqu'un de profondément humble, malgré le personnage qui faisait des conférences, qui faisait des bouquins, etc. C'était quelqu'un d'une grande, grande humilité. Et il faut être humble quand on bosse ensemble. C'est-à-dire que si c'est l'ego qui se met devant, les projets, on en a vu capoter, moi j'en ai vu capoter pas mal, pourquoi ? Toujours, toujours sur des histoires d'ego, des histoires de « mais non, mais c'est mon idée, si elle n'est pas passée, il y a un ressentiment. Si » a... Non, on met les choses sur la table et on essaye. L'humilité, cette qualité, a cet atout formidable qui est, on est dans l'expérience, on est dans l'empirique, on essaye. On fait l'expérience, on n'est pas d'accord. Eh bien, tentons, quitte à tirer au sort l'idée, hein, sur un petit bout de papier, et on va essayer de la réaliser. Eh ben, tu vois, ça, je t'avais dit, tu vois, ça s'est avéré juste. Ah oui, là, tu avais raison. Et ça crée en fait un lien et un partage dans le vécu, ce fait d'expérimenter, qui fait qu'on ne s'assoit pas autour d'une table, on ne décrète pas de tout ce qu'on va faire sans se connaître réellement au-delà de la table autour de laquelle on est plein de bonnes intentions, mais sur laquelle on ne montre pas la facette la plus importante de ce qu'on est, c'est-à-dire nos capacités à réaliser, nos capacités à incarner, où là, tout le reste de l'être s'engage. Donc, c'est quelque chose que je redis parce que j'ai eu plusieurs expériences comme ça de collectif. J'ai 38 ans de monde associatif, d'engagement dans le monde associatif. On a monté des AMAP, on a monté des lieux aussi, comme ça. Projet de, dans le DIWA de faire un écolieu. Donc, on peut se réunir. Moi, je suis prêt à me réunir avec les écologistes qui ont envie de réaliser quelque chose, qui passeront de l'écologisme à l'humanisme. Et pour réellement réaliser quelque chose.
De la pensée à l'action.
Voilà. Hein, sortir de cette écologie hors sol. C'est terrible quand même de savoir qu'aujourd'hui, les écologistes les plus connus sont des gens hors sol. Ce sont des intellectuels qui sont, ils sont tous intéressants. Ils sont tous intéressants. En plus, au niveau de la personnalité, j'en ai côtoyé, c'est des gens vraiment intéressants et chouettes humainement. Mais comment on peut rester dans les urgences et les priorités qu'on a aujourd'hui.
Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de parler de ça ou de faire ce type de retour à des gens qui sont concernés justement et qui travaillent, agissent dans l'écologie ?
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5
101.7
FM.
Je disais tout à l'heure que les projets qu'on a réalisés dans le monde associatif, je les ai rencontrés, ces gens-là qui étaient prêts à intervenir. Mais ils sont engagés, certains sont engagés, certains ont vu leurs limites, notamment sur les AMAP, qui est un projet hyper intéressant. L'Oasis en tout lieu fonctionnera à partir d'une AMAP, d'une association pour le maintien de l'agriculture paysanne, qui est déjà en soi une structure qui implique des bénévoles. Les clients consommateurs deviennent bénévoles et se vivent d'abord comme ça. On a monté 4 AMAP sur le bassin annécien, à Annecy, En 2 ans et demi, on a monté 4 AMAP, qui étaient des projets fabuleux, parce qu'on avait vraiment une vision de ce que pouvait être la société, ou le social purement quotidien, au quotidien, quand on fait des choses ensemble. Et mais c'est boostant, mais c'est juste incroyable, quoi. Et je suis toujours, toujours frappé par cette inertie qu'il y a dans la tentative de réalisation. Alors c'est notre culture, hein, moi, ok. Moi, adepte du Tao, l'incarnation, c'est le propos du Tao, la culture occidentale sur laquelle je suis embuté, qui est cérébrale, hein, où le néocortex fait la loi, et où tout est cérébral, décidé d'abord par le cerveau, et on n'essaye pas, on n'expérimente pas. L'empirisme, c'est-à-dire essayer, faire l'expérience, pour moi, c'est fondamental, parce qu'elle met en jeu toutes tes capacités. La capacité de la personne se met en jeu dans l'empirisme, dans l'expérience elle-même, où on concrétise. Et on n'est plus seulement dans le cortex, dans le néocortex, on n'est plus dans le cérébral, on n'est plus que des intellectuels. Moi, je trouve ça pathétique de n'être qu'un intellectuel. La culture occidentale a tellement spécialisé, et est rentrée tellement dans la spécialisation, jusqu'à l'hyper-spécialisation, qu'aujourd'hui, on a des gens mais hyper brillants dans des spécialités sur le vivant. Je peux les citer, Baptiste Morisot. Type hyper intéressant qui travaille sur les relations du vivant, les interactions du vivant sur les castors, par exemple. Il y a plein de choses à dire. Pablo Servigne, hyper intéressant. Je l'ai côtoyé, hyper intéressant. C'est un type que j'aime beaucoup, qui a une belle sensibilité, une belle humanité. Mais il manque la concrétisation, quoi. Si on est écologiste sans vouloir s'impliquer concrètement, sans incarner, à quoi ça sert ? Je me pose toujours la question.
Est-ce qu'il n'y a pas différentes façons de s'impliquer, de par justement des, en tant qu'auteur, de transmettre des faits, des constats, de sensibiliser une population, c'est une manière de s'engager.
Bien sûr. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'à un certain moment, on ne peut plus rester dans le cérébral. On a des belles idées, mais on ne peut pas rester un spécialiste des idées, quoi. Pour moi, c'est inconcevable. Si on ne concrétise pas ces idées, en ce qui me concerne, je trouve ça très frustrant d'être un brillant intellectuel qui a plein de bonnes idées, qui fait des modélisations sur le devenir de la planète, en prenant l'évolution des écosystèmes, des biotopes et tout. Mais c'est super intéressant. Sauf qu'il y a une chose, je tape à la porte doucement, je leur tape dans le dos, je dis « Oh les cocos, non seulement on a des gamins, mais vous avez vu les urgences ?» Quand je vois quelqu'un comme Paul Watson, Sea Shepherd, qui pour moi est un exemple, mais vraiment un exemple, mais c'est un mec, qui a, quand on l'écoute parler, il a sorti des bouquins, mais les idées qu'il a dans la tête, je ne connais pas beaucoup d'écologistes qui ont autant de capacité de synthèse et de superviser ce que peut être l'océan, par exemple, et ses interactions sur la planète Terre elle-même. C'est un intellectuel aussi, mais regardez ce qu'il fait.
Lui, il a vraiment fait partie de l'action.
Moi, je crois qu'à un moment, il faut choisir son camp, en fait. On reste un très brillant spécialiste. Et dans ce cas-là, on aménage le système, ce que font pour moi les écologistes aujourd'hui, ils aménagent le système. Ou alors, on est un très brillant intellectuel comme l'a été Pierre Rabhi. C'est un brillant intellectuel, je veux dire, vous lisez ses bouquins, mais c'est beau, non seulement c'est brillant, c'est lucide, c'est poétique, mais c'est beau. C'est à pleurer quand on voit les urgences, les priorités qu'il y a aujourd'hui. Et j'en pleure, hein. Il m'arrive d'en pleurer, je me dis, mais comment on peut en rester là, quoi ? C'est juste pas possible. Alors, qu'une organisation comme Sea Shepherd existe dans le seul objectif de faire respecter des lois qui ont été votées, mais alors ça, mais c'est juste aberrant, c'est juste hallucinant. Pas qu'elle existe, il faudrait des milliers de Sea Shepherd, en fait. J'ai entendu encore récemment Lamia Essem-Lali, qui est une super nana. Mais quand vous voyez la pêche qu'ont ces gens-là, je veux dire, cette vitalité, et que vous dites... Oh.
Comme tu disais, c'est vraiment des gens qui ont leurs convictions et qui sont dans l'action de leurs convictions.
Et qui ont trouvé leur place. Comment tu peux te dire écologiste et dire « Oui, mais moi, j'ai trouvé ma place, je fais de la modélisation, je sors des bouquins, je fais ceci, j'étudie cela. » Mais c'est pas une vision de société. Moi, je veux pas cette vision-là de la société, de spécialistes, chacun dans leur coin. C'est pas une société. Elle est où, la société, chez les spécialistes ? Donc, je lance un petit appel là. Rejoignez Sea Shepherd, s'il vous plaît. Ils ont pris une vilaine claque. Ils se sont fait trahir par les membres même de Sea Shepherd.
Ça m'a un peu répugné, ça aussi.
Donc ça doit motiver, ça doit motiver à soutenir Paul Watson.
Moi, je vais m'engager pendant mon année sabbatique dans Sea Shepherd. J'aimerais bien aller sur les bateaux et les aider à faire ce qu'il faut.
Bravo.
Au moins une fois dans ma vie.
Oui, bravo. Que chacun fasse au moins une fois dans sa vie, côtoie ces gens-là.
Et puis je pense, voilà, c'est un truc où tu ressors et tu dis, ok, si eux ils arrivent à agir, moi aussi je peux le faire et on y va en fait.
Qui est incroyable.
Ouais. Bah comme tu dis, ils dégagent une énergie, une pêche et une vitalité. Tu dis, ok, bon bah en fait tout est possible.
C'est
là, on y va.
Voilà, c'est ça. Pierre Rabhi a bien rencontré Paul Watson et ils étaient un petit peu en divergence sur l'activisme de Paul Watson. Pierre Rabhi est fondamentalement non-violent et ça l'inquiétait un peu, ça lui faisait un peu peur. L'activisme comme ça. Alors moi, j'ai le cul entre deux chaises maintenant, entre Pierre Rabhi et Paul Watson, mais je choisis Paul Watson, en fait. Pierre Rabhi est toujours dans mon cœur et il le sera toujours. Tout ce qu'il a fait, tout ce que j'ai contribué à promouvoir de son héritage, je continue. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est vital, en fait. C'est juste ça. C'est juste vital que l'activisme aujourd'hui, de gens qui défendent des lois qui ont été votées, quoi. Mais c'est juste hallucinant. Ouais. On prend conscience du monde dans lequel on est, là. Là, on rigole plus, en fait. On peut rigoler. Hein,
Pleurons.
Mais non, ni pleurer, mais dire... Mais en fait, non, c'est niette, en fait. Maintenant, on y va. Paul Watson demande à chaque membre qui rentre à Sea Shepherd s'il est prêt à mourir pour une baleine. Moi, je suis prêt à mourir pour un rouge-gorge que je vois tous les matins qui vient me rendre visite. Moi, franchement, je ne demande qu'à rencontrer des gens. J'ai du mal à rencontrer des gens. Bon, c'est peut-être lié à ma personnalité de sanguin, mais non, moi j'aime les gens, je veux dire. C'est juste plus possible aujourd'hui d'être dans les constats et de disserter encore sur le impossible de devenir. Mais c'est plus possible. Je vais plus aux rencontres de l'écologie à cause de ça. C'est toutes les années, c'est la même chose. Il y a une espèce d'habitude tranquille qui s'est installée où les écoliers. C'est bien, c'est un lieu de rencontre. C'est indispensable, les lieux de rencontre. Ils sont indispensables. Que les rencontres continuent, qu'elles puissent exister. Qu'on sorte des rencontres avec un projet, s'il vous plaît, pitié. Un projet. Je pense à nos enfants, c'est tout. Nos enfants. On ne peut plus rester, c'est plus possible aujourd'hui, rester assis devant son ordi. Voilà donc, petite parenthèse, Sea Shepherd, rejoignez, s'il vous plaît. Sea Shepherd, c'est le même combat, c'est la même lutte, c'est le même engagement en fait. Hein.
On vous invite donc à rejoindre le mouvement
à Sea Shepherd
et même juste à rejoindre le mouvement tout simplement pour pouvoir exister demain et continuer à vivre ensemble.
Et on continuera donc cette émission sur l'héritage de Pierre Rabhi qu'on fera donc en deux parties parce que comme tu le mentionnais en début d'émission, c'est un bel héritage qu'il nous laisse.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5
101.7
FM.
Donc les idées, c'est capital, les intellectuels, on en a besoin, mais qu'on se rencontre entre intellectuels et gens prêts à réaliser, si les intellectuels sont trop pris par leur job, mais là il faut concrétiser, je veux dire, il faut réaliser, il faut incarner, parce que sinon on reste suspendu là-haut, perché. On regarde s'écrouler tristement les choses alors qu'on a un tel potentiel en nous. C'est une occasion de faire des choses ensemble aussi, hein, pas l'oublier.
Et juste pour conclure cette petite émission, moi, sur les premières dates clés que tu as évoquées sur la vie de Pierre Rabhi, je voulais juste te demander, toi, à quelle époque ton chemin a rencontré le sien et à quelle occasion, qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre ?
Alors, j'ai rencontré Pierre Rabhi par l'intermédiaire d'un couple d'amis qui étaient des pratiquants de tai chi, mes élèves, un couple d'amis élèves à moi en tai chi. À l'époque, j'étais sur le centre de formation dans le Luberon, Pédette. Je les ai donc rencontrés là. Ils m'ont parlé de Pierre Rabhi. J'ai tendu l'oreille. Je me dis, Et intuitivement, il y a quelque chose qui m'a dit, il faut que tu rencontres cet homme. Donc, eux le connaissaient, faisaient partie des amis de Pierre Rabhi.
Donc c'était en 96
que j'ai rencontré ses amis.
Okay.
Le premier stage que j'ai fait, c'était le début de Terre Humaniste. Le premier, c'était Initiation à la Terre Nourricière. J'y suis allé. J'ai rencontré Pierre Rabhi à ce moment-là. Et une petite anecdote qui m'a beaucoup touché. Les gens, quand ils voient Pierre Rabhi, ils se sautent au cou, on s'embrasse et tout. Moi, je lui ai tendu la main, il m'a tendu la main, on s'est serré la main. Et il m'a laissé quelque chose dans la main, en serrant la main. ma main instinctivement est allée sur mon cœur, s'est posée sur mon cœur, a déposé quelque chose dans le cœur, et je me suis dit, mais c'est juste pas possible ce mec. Et là, pour moi, le bonhomme, le personnage, était là, sur une simple poignée de main, j'ai tout Pierre Rabhi. Et j'ai une autre anecdote sur ce qui me laisse, qui est assez touchant, assez mouvant. J'ai été faire une émission, pour, à l'époque, quand j'étais en Savoie, pour Radio Alto.
Il n'y a pas l'équipe Radio Alto.
Oui. Bonjour à vous. À Montchamp, j'étais chez lui. Je l'ai rencontré, on a passé une journée ensemble avec Michel. Et j'avais ma fille à l'époque, avec sa maman, Edwige. On est allés ensemble et on est partis. Et Lila, ma fille, était dans les bras de sa mère, Edwige. Et il s'est posé devant Lila. Il était à 50 cm d'elle en la regardant. Et le regard qu'il a eu sur elle, mais c'était juste... J'avais les larmes aux yeux, quoi. D'ailleurs, ils reviennent. Et Lila, qui le regardait complètement émerveillée, comme si elle voyait Merlin l'Enchanteur, c'était... Voilà, Pierre Rabhi, c'est ça, c'est une humanité, mais tellement profonde, une chaleur humaine tellement forte, un cœur, enfin, chargé d'amour, je ne vais pas tomber dans le pathos. Et après, je comprends, quand je vois son parcours, je comprends un type habité par une conviction incroyable de ce que peut être la vie déjà en lui, parce que, c'est comment elle réagit en lui, elle est... Toute cette humanité qu'il porte, toute cette... je serais tenté de dire que c'est un être d'exception. Nous sommes tous des êtres d'exception. Nous avons tous nos singularités. Mais au niveau profondeur humaine, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait cette profondeur humaine, cette chaleur humaine, ce cœur. Et Michel était une femme aussi de cette envergure-là. Aussi une femme de cœur. Et ils allaient vraiment très, 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 très bien ensemble.
Merci pour cette belle hommage à ces deux personnalités et on se retrouve tout bientôt pour la suite de l'héritage de Pierre Rabhi.